Dialogue entre Congolais à présent avec Claude Kianza à la présentation.
Bonsoir, un demi-milliard de dollars américains, c'est le montant qu'a décidé d'investir la société Racine des Émirats Arabes Unis pour la construction à Kinshasa d'un grand complexe hôtelier et de plusieurs bâtiments commerciaux. Tenez, ce mardi dans la capitale congolaise, le président Joseph Kabila a lancé le début des travaux qui comprendront notamment la construction de 2 tours résidentielles de 20 étages chacune, d'un hôtel luxueux de 23 étages, d'une salle de conférence de 2000 places ainsi que d'un grand centre commercial. Quelle est la force de l'État congolais dans ce projet? Ce sera la première partie de cette émission. Est-ce un signe de l'amélioration du climat des affaires en RDC? Ce sera là la deuxième partie de cette émission. Dialogue entre Congolais se penche ce soir sur ces questions avec 3 invités. Maître Jean Bouillou, député national PPRD, Al Kitenge, analyste politique, et Franck Kiongo, député honoraire élu de la ville de Kinshasa, membre de l'opposition politique et ingénieur conseil de construction civile. Vos réactions, chers auditeurs, nous en avons déjà sélectionné quelques-unes. Florent Mouekwa de Baraka Fizi au sud Kivu se demande pourquoi tous les projets de grande importance sont focalisés sur Kinshasa et Lubumbashi, et pourquoi pas dans d'autres provinces, continue-t-il, évitant l'impartialité, conclut-il. Un auditeur qui ne s'est pas identifié pense pour sa part que c'est bien beau de construire. Nous pensions, dit-il, qu'on allait construire de nouvelles villes. Dommage que cela n'ait pas été fait, termine-t-il sa pensée. Enfin, Isidore Gamouamini de Tchibala au Kassai Occidental espère que ce bon projet profitera à l'État congolais. Par conséquent, affirme-t-il, le gouvernement n'a pas droit aux erreurs. Il doit convaincre l'opposition ainsi que tous les Congolais de l'impérieuse volonté du gouvernement congolais de bâtir la RDC. Fin de citation.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Pose ce mardi à Kinshasa de la première pierre pour la construction de l'hôtel Racine et de 2 tours résidentielles dans la commune de Gombe. C'est le chef de l'État congolais Joseph Kabila, accompagné du prince Cheikh Saoud des Émirats Arabes Unis, qui a présidé cette cérémonie. C'est le fruit du partenariat signé le 18 juillet 2007 entre le groupe Racine des Émirats Arabes Unis et la République démocratique du Congo. Pour une durée de travaux de 2 ans, le coût des travaux est de 540 millions de dollars américains, financés par le groupe Racine des Émirats Arabes Unis, comme nous le disions. Notre confrère René Capitaine suivit pour Radio Capi le lancement de ces travaux et nous en fait le point.
Ce partenariat prévoit la construction d'un hôtel 5 étoiles de 350 chambres en face du ministère des Affaires étrangères, 2 tours résidentielles à la gare centrale et un centre commercial de standard international en diagonale de la Grande Poste. Pour le directeur général de l'entreprise Racine qui assure les travaux, son groupe voudrait, à travers ce partenariat, participer à la reconstruction de la RDC. Katier Massad.
Nous sommes très heureux de nous retrouver aujourd'hui à Kinshasa et tenons à vous confirmer que notre volonté est maintenant de devenir un des acteurs prédominants de sa reconstruction. Nous croyons à l'énorme potentiel de votre pays et nous voulons travailler dans l'intérêt de tous avec votre gouvernement à la réalisation des 5 chantiers de chef de l'État. Par notre contribution, nous espérons pouvoir participer de manière concrète à la relance économique et sociale du pays.
Le patron des Racines a en outre déclaré que la durée des travaux est de 2 ans. L'inauguration de l'hôtel interviendra le 30 juin 2010 lors de la célébration du 50e anniversaire de l'indépendance de la RDC.
Qu'en pense le gouvernement congolais? Quelles retombées pour la RDC? Élément de réponse avec le ministre des Travaux publics et infrastructures, Pierre Numbi. Il est au micro de notre confrère René Capitain.
Le gouvernement de la République, non seulement soutient fermement les investisseurs privés d'où qu'ils viennent, mais aussi est prêt à s'engager avec tous ceux qui le souhaitent dans un partenariat public-privé gagnant-gagnant. Le présent projet va à coup sûr générer des milliers d'emplois tant dans sa phase de construction que dans sa phase d'exploitation. Sur le plan touristique, il permettra d'encourager le tourisme et de mettre en confiance les affaires. Sur le plan financier, il permettra, dans sa phase d'exploitation, d'élargir l'assiette fiscale de l'État en lui dotant de ressources financières supplémentaires. Et enfin, il va augmenter la capacité de logement décent de la ville de Kinshasa.
Franck Yongo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député honoraire élu de la ville de Kinshasa, membre de l'opposition politique, et vous êtes également ingénieur conseil de construction civile. C'est à ce titre aussi que nous vous invitons dans cette émission. Nous le savons tous, la ville de Kinshasa dispose d'un nombre insuffisant d'hôtels dignes de ce nom par rapport même à certaines villes africaines. Un demi-milliard de dollars d'investissement, est-ce positif d'après vous dans ce domaine hôtelier?
D'abord, nous vous remercions de nous avoir associés en ces débats.
Je vous en prie.
Le partenariat, oui, mais un mauvais choix de priorité. Aujourd'hui, la République a beaucoup plus tôt besoin qu'on puisse investir dans les cadres sociaux. Pour revenir dans les 500 millions de dollars investis dans le secteur hôtelier, on investit dans un cadre où il y a beaucoup de lacunes. Premièrement, sur le plan législatif, il n'existe pas encore en République démocratique du Congo les codes de construction. Et j'aurais souhaité que lorsqu'on voudrait avoir un élan nouveau de reconstruire le pays, qu'on ait assez déterminé le préalable législatif. De deux, sur le plan technique même. Sur le plan technique, vous comprendrez qu'il y a également une existence d'un plan général d'aménagement du territoire, une existence d'un plan général de l'aménagement de la ville de Kinshasa, où certains terrains vides ne peuvent pas être occupés dans la construction. Vous trouverez par exemple que le terrain de l'office des routes qui est pratiquement dans les zones administratives, vous allez trouver le ministère des Affaires étrangères, le palais de la justice, les écoles, ainsi de suite, les bureaux du président de la République. Est-ce que c'est approprié et lorsqu'on avait construit la ville, qu'on puisse construire des hôtels là-bas? Là, ça pose un problème. Donc l'inexistence d'un plan général de l'aménagement de la ville pose des problèmes. Deuxième préalable et non satisfait. Vous trouverez que on peut lancer les travaux, notamment dans ces complexes hôteliers, mais on va construire avec quels matériaux de construction? Notez que la ville de Kinshasa a un problème de rareté des matériaux de construction. Commençons par les ciments. Et les ciments aujourd'hui, vous comprendrez par là qu'un sac de ciment qui se vendait à 10 dollars se vend aujourd'hui à plus de 30 à 35 dollars, 27 à 35 dollars. Et alors que la CINATE qui a besoin uniquement de 25 millions de dollars, et pour essayer de relancer son outil de production, pour essayer de payer ses dettes et tout cela, nous avons une carence de ciment, donc ils auront une difficulté de ciment, et alors ces hôtels seront construits avec le ciment de l'extérieur. De la même manière, que ce soit sur les tôles, que ce soit sur les barres de fer, j'aurais souhaité qu'on puisse investir préalablement sur la production des matériaux de construction, en fait qu'on produise ici localement, et ça aidera à ce que l'argent circule au Congo, et qu'il y ait beaucoup plus d'emplois.
Merci beaucoup, Franck Diongo. Donc, je retiens que vous dites que c'est un mauvais choix de priorité. Donc, il fallait que le gouvernement investisse d'abord dans le social. Il y a aussi un problème de manque de code de construction. Et sur le plan technique, il y a une existence d'un plan d'aménagement de la ville de Kinshasa. Et puis, le deuxième préalable non satisfait, c'est la rareté de matériaux de construction, donc tôle, ciment. Maître Jean Bouillou, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes député national PPRD, vous êtes également le parti du chef de l'État et membre du bureau politique de ce parti politique. Votre réaction par rapport au lancement de ces travaux et aussi par rapport à l'argumentation de Franck Diongo?
Oui, merci cher ami. Il faut d'abord dire et d'emblée que c'est pour la première fois depuis la zaïrianisation qu'il y a un investissement privé en dehors du secteur minier qui atteint 500 millions de dollars, donc la moitié d'un milliard. Et donc c'est un fait majeur dont il faut se réjouir, en fait il faut féliciter et encourager et reconnaître que ceux qui ont pu mobiliser l'extérieur pour qu'un groupe de gens qui possèdent l'argent décide de le faire atterrir au Congo pour un investissement urbain de ce genre, c'est quelque chose, je dirais, de louable. Maintenant, dire que c'est un mauvais choix parce qu'on aurait dû commencer par le social, je dis tout de suite, non, c'est une erreur. Le social est financé par des résultats d'une gestion économique, par les résultats d'une production économique. Il faut d'abord produire pour que la plus-value ou le surplus serve à financer le social. On ne fait pas des projets pour financer le social. Et il faut, pour financer le social, gagner de l'impôt ou gagner des bénéfices sur lesquels vous allez prélever des montants pour le social. C'est pour ça que le choix de faciliter le secteur privé pour venir installer des structures qui permettront à l'État de lever l'impôt, qui permettront des effets d'entraînement dans la vie économique du pays, qui permettront aussi à des étrangers qui hésitent de venir ici de suivre, ces faits-là sont tout à fait sur le plan économique importants parce qu'ils sont un prélude au financement du social. Ensuite, bon, évoquer comme mon ami Franck Gengo, dont j'apprécie souvent la pertinence des arguments dans les débats, évoquer la question du plan général, la question des matériaux de construction, je crois que c'est à un second niveau, parce que le plan général, on est d'accord qu'il faut améliorer la planification de nos villes, mais quand un investisseur se présente avec de l'argent, vous n'allez pas lui dire, non, attendez d'abord, nous allons faire un plan général. Non, ça c'est une question interne qui devrait d'ailleurs s'améliorer au fur et à mesure que nous évoluons dans la bonne gouvernance. Et la question des matériaux de construction, c'est vrai, le ciment aujourd'hui a des prix assez élevés, les tôles, les barres de fer, mais vu du point de vue d'un patriote, d'un nationaliste, si des étrangers disent qu'ils vont venir, après leurs études, implanter une structure importante dans une ville du pays, eh bien, il faut tout de suite encourager ceux-là à venir et commencer avec eux. Donc, je crois que le fait de les encourager est de l'un plus important pour nous, et de les accueillir, et cela est très important pour l'économie congolaise, et alors il faut que nous puissions coopérer à ce qu'ils réalisent cet ouvrage ou ces ouvrages qui auront un effet d'entraînement certain dans la vie économique.
Nous avons également en ligne au téléphone Alki Tengue, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes analyste politique, vous avez suivi Maître Mbuyu et Franck Diongo. Maître Mbuyu estime que c'est un investissement très important pour l'économie de notre pays, qu'on finance le social par la production et que c'est la première fois qu'un investissement privé atteigne ce montant d'un des milliards de dollars. Quelle lecture faites-vous de leurs deux propos?
Je pense que, de tout d'abord, j'aimerais préciser que je suis plutôt analyste économique et pas analyste politique.
Excusez-moi, analyste économique.
C'est rien. Par contre, j'ai quelque chose de très important à dire et elle est tout à fait simple. Il s'agit là d'une société de personnes à responsabilité limitée. Il s'agit donc d'une initiative purement privée. Il ne faudrait pas que le fait que ça mobilise les autorités politiques y donne une coloration politique. C'est très très bien que le chef de l'État se déplace et les ministres se déplacent pour encourager les gens qui viennent chez nous, c'est des signes positifs et il faut en faire davantage. Et il faut simplement se rendre compte que lorsque les privés commencent à venir chez nous pour investir, ils deviennent du coup des ambassadeurs. Ça montre clairement que nous leur donnons les moyens de venir chez nous et eux, parlant plus haut que nous, ils peuvent faire pour d'autres investisseurs. Et ici, je profite de l'occasion pour dire que c'est le moment où jamais nous devons mettre des bouchées doubles à la NAPI pour qu'il joue son rôle. La NAPI est justement l'outil pour être en mesure de faire venir le plus possible d'investisseurs chez nous. Et je pense que le cas de Rakin, STL...
Et la NAPI, c'est quoi, s'il vous plaît?
La NAPI, c'est l'Agence Nationale de Promotion des Investissements.
Allez-y, Alki Tengue.
Oui, je disais que c'est très important que la NAPI soit reboostée aujourd'hui afin que cette agence puisse jouer son rôle de porte d'entrée et des investissements directs étrangers. Mais c'est aussi une occasion pour que les Congolais qui ont des moyens, qui sont logés à l'extérieur, puissent les amener au Congo et qu'ils se rendent compte que le Congo devient de plus en plus une terre de production, une terre de rentabilité. Si les investisseurs étrangers investissent chez nous, il est important que nous prenions aussi en charge, que nous puissions investir davantage chez nous. Ce sera une bonne manière de faire venir des investisseurs étrangers. Et donc, je salue avec beaucoup de véhémence le début des travaux de Rakin SRL et j'espère en passant qu'il va y en avoir davantage, aussi bien à Kinshasa que dans les autres provinces.
Maître Jean Bouillou, vous êtes député national, membre du PPRD, le parti présidentiel. Pourquoi les Congolais aussi ne peuvent pas investir comme l'a fait Rakin? Parce que nous savons qu'il y a des Congolais qui sont aussi millionnaires en dollars. Pourquoi ne peuvent-ils pas le faire?
Bon, j'en connais pas beaucoup, hein, sincèrement. J'étais ministre de l'Industrie pendant 2 ans. J'ai essayé de rencontrer dans le répertoire, de voir quels sont les Congolais qui ont vraiment des moyens étrangers qui peuvent investir chez eux. J'en ai vu très peu. Alors, il faut souligner néanmoins qu'il y a des cas qui ressortent du lot. Je vois par exemple Mutombo Dikembe, qui est un sportif congolais qui est à l'étranger, qui a réussi à faire un investissement de 15 millions de dollars à travers l'hôpital qui porte le nom de Stade Saint-Pierre. J'ai rencontré également Chabani Nonda, qui est également un sportif qui joue en Europe, qui a entrepris des travaux pour 3-4 millions de dollars. Je les félicite ceux-là. Mais il faut reconnaître que si des Congolais de l'extérieur doivent investir chez eux, ils devraient se mettre ensemble, se regrouper, donc trouver des mécanismes du droit des sociétés pour pouvoir ramener un peu plus d'avoir en commun et constituer une garantie pour la banque qui voudrait les financer. Mais des Congolais en solo qui ont des moyens à l'étranger, pour personnellement, je n'en ai pas inventé beaucoup lors de mon passage au ministère.
Maître Jean Bouillot, mais quelle est finalement la part du responsabilité, la contribution du gouvernement congolais dans ce genre d'investissement à caractère privé? Vous avez aussi été membre du gouvernement dans les passés, vous connaissez ces choses.
Oui, il y a d'abord ce qu'a évoqué tout à l'heure Alki Tengue, le rôle majeur de l'Agence pour la promotion des investissements, donc l'ANAPI, l'Agence nationale, qui, à travers elle, vous avez accès au code des investissements. Et à travers le code d'investissement, le gouvernement accorde des exemptions d'impôts, il accorde des exonérations diverses, de sorte que le matériel importé peut bénéficier jusqu'à plus ou moins 70% d'exemption. Donc ce sont des pertes au budget de l'État, mais que le gouvernement et le peuple acceptent pour faciliter l'entrée des investisseurs. Et je crois que c'est la partie majeure de la contribution même du gouvernement au secteur privé. C'est vrai, c'est une initiative privée, mais l'État consent de perdre des impôts pour faciliter l'entrée de certains investisseurs, un peu comme aussi dans le domaine agricole, parce que cela va permettre un effet sous le plan de l'emploi, sous le plan aussi de ce qu'on appelle l'effet d'entraînement d'autres sociétés sous-traitantes qui vont s'installer et d'autres qui vont suivre aussi, comme Alki Tengue a dit, cela y constitue aussi nos ambassadeurs. Donc, je crois que je peux m'arrêter à ça.
Et Kang Diongo, d'après vous, quel peut être l'apport du gouvernement congolais dans ce genre d'investissement important, quand même?
Non, mais notez que Maître Mbou ne m'a pas totalement contredit lorsque j'ai demandé que lorsque nous prenons une entreprise, par exemple, le CIMAT, qui produit les ciments, qui a besoin de 25 millions de dollars, et que lorsque j'exige le préalable au niveau légal ou législatif, et qu'on adapte nos textes, on pourra conditionner, par exemple, que dans les 540 millions de dollars qui seront investis pour construire ces complexes hôteliers, et qu'une partie soit affectée pour que la production de ciment soit localement ici, et que les 25 millions que Sinat a besoin, parce que Sinat, si on donne à Sinat 25 millions de dollars, son cimenterie nationale, 25 millions de dollars, sa production va passer de 100 000 tonnes à 300 000 tonnes, et ça va passer donc de 40 millions de dollars à 120 millions de dollars par an. Donc là, lorsque Maître Mou soutient la production, voilà un exemple de la production locale où, pas seulement qu'il y aura de l'emploi, pas seulement qu'il y aura de l'argent produit localement ici, nous allons vendre nos matériaux de construction localement ici. Donc ça, je suis en train de démontrer que j'ai continué à insister qu'il y a un mauvais choix de priorité. Il est vrai que le privé, lorsqu'ils viennent, l'État doit les encourager, doit présenter une conditionnalité pour essayer que l'expertise locale soit associée, que l'État trouve ses intérêts là-dessus. Vous trouverez que lorsque j'insiste sur le social, nous avons une incidence de la pauvreté de 71%, alors que la population aujourd'hui a besoin de qui donner à manger. Lorsque je demande qu'on puisse investir dans les sociales, vous allez comprendre, par exemple, donner à manger à la population, c'est une priorité. Et les complexes hôteliers, c'est pour quelle catégorie de citoyens qu'on a construit? La majorité des Congolais, notez que nous avons 71% d'incidence de pauvreté au Congo, avec un taux d'inégalité de 42%. Monsieur, donc, si vous comparez par rapport aux autres pays de l'Afrique centrale, nous sommes également beaucoup plus pauvres que tous les pays de l'Afrique centrale. Moi, je pense que des investisseurs qui viendront investir dans la santé, dans l'éducation, dans les logements, les logements des catégories des moyennes classes ou des petites classes, et bien entendu le plus pauvre, ça aidera en fait à résoudre un problème. En construisant ces complexes hôteliers, on résout quel problème par rapport à la majorité des Congolais.
Mais il y a aussi un centre commercial qui sera construit.
C'est pas si nous comprenons. Moi, j'aurais souhaité qu'on pousse plus qu'aujourd'hui. Le Congo est un pays très pauvre. Je vous ai dit que l'incident de la pauvreté, moi, tellement il connaît, il a été ministre de l'Industrie, il sait que l'incident de la pauvreté au Congo est de 71%. Et alors, nous avons besoin des projets, nous avons besoin d'un investissement qui va permettre de réduire la pauvreté. Donc, l'investissement privé doit être soutenu par l'État. Là, nous sommes tous d'accord, mais nous, nous pensons que l'État, dans une politique, donc en fait, on ne peut pas condamner l'investisseur qui vient, puisqu'il n'est pas venu pour faire des dons, il n'est pas venu comme quelqu'un qui est en promenade, il est venu faire de l'argent. C'est pour cette raison qu'il n'est pas parti à l'intérieur, dans les différentes provinces. Donc, ici, le même investisseur a commencé à Lubumbashi par le mine, parce que c'est un investisseur de mine déjà à Lubumbashi, mais pourquoi que le gouvernement ne peut pas orienter ou inciter? Donc c'est l'absence d'une politique incitative qui encourage, merci, bien entendu, le privé à aller dans les secteurs sociaux,
merci,
ou bien entendu...
Oui, merci beaucoup, Fondion, parce que nous n'avons plus beaucoup de temps. Alki Tengue, vous êtes analyste économique, puisque l'honorable Franck Diongo revient sur le mauvais choix de cet investissement. Il estime que le gouvernement devrait plus favoriser des investissements allant dans le sens de la réduction de la pauvreté, par exemple allant dans le sens de la santé, du logement, au lieu de construire de favoriser la construction des hôtels qui ne profiteront qu'à une catégorie assez aisée de la population. En tant qu'analyste économique, qu'est-ce que vous en pensez?
Je pense que Franck Diongo se trompe gravement parce que il pose tout le problème du leadership. Vous savez, même l'économie a son leadership. C'est toujours les plus riches qui tirent les plus pauvres. Les plus pauvres n'ont pas les moyens de tirer les plus riches. Malheureusement, c'est ça la vérité. Et autre chose, et cette chose est assez simple à comprendre, je voudrais bien y insister en disant, il faut comprendre que nous devons commencer quelque part. Au jour d'aujourd'hui, il faut commencer là où nous sommes le plus visibles. Et je crois que si nous admettons que cet investissement ne dépendait pas de l'État, ça dépendait d'une étude de faisabilité qui a été effectuée par le promoteur, il y a très peu de choses que l'État pouvait y faire dans, je parle directement du choix et de l'opportunité. Par contre, et ça reste très important, et Franck Diongo le dit, l'État peut inciter, mais ça, encore une fois, ça laisse la liberté aux promoteurs à pouvoir décider où ils font leur investissement de manière directe. Par contre, l'État, même s'il doit pouvoir investir dans le secteur social, il faut savoir que le secteur social a un coût. Il faudra donc que l'État génère de l'argent pour prendre le coût des plus pauvres. Et pour ça, encore une fois, il doit prélever de l'argent. Il le prélève chez ceux qui en ont, les riches. C'est pour ça que, à mon avis, ça semble opportun que l'on investisse de l'argent là où les riches vont le dépenser pour que l'État le saisisse et qu'il soit en mesure de le redistribuer, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il s'agit de ce qu'on appelle la solidarité nationale. Et donc, Franck Diongo, je comprends bien qu'il est de tendance socialiste, et ça peut se respecter, ça peut se comprendre, mais même les socialistes savent aujourd'hui que le monde a véritablement changé et qu'il n'y a pas moyen de faire du social sans argent. Et pour faire de l'argent, il faut produire, et pour produire, il faut des investissements. Et je pense que les investissements ne viennent pas de ceux qui n'en ont pas. Les investissements viennent de ceux qui en ont. Les prélèvements, ils sont beaucoup plus quantitatifs et qualitatifs chez ceux qui sont riches, ceux qui sont lentilles, plutôt que l'inverse. Et je pense qu'il faudrait qu'il reste tolérant sur le fait qu'on est à commencer quelque part. Et je pense que lorsque nous allons commencer les travaux de construction de cet hôtel ou de ces hôtels, ceux qui vont travailler, il y aura certainement des ingénieurs, il y aura des contremaîtres, il y aura des maçons, il y aura des ouvriers. Et ceux-là, ils se recrutent dans la masse. Et je pense que de cette manière, déjà de manière directe, ils vont être en mesure de capter une partie de cette richesse qui sera dépensée, et au fur et à mesure, la redistribution va devoir venir de manière tout à fait directe.
Merci beaucoup, Alki Tengue. Donc je retiens que une partie de ce qui sera produit, des richesses qui seront produites par ces complexes hôteliers de résidence, pourra être redistribuée aux pauvres, en quelque sorte. C'est ce que vous voulez dire?
C'est classique. Je pense qu'il faut comprendre que on ne distribue que ce qu'on gagne. Et moi, je m'inscris en faux contre la lutte contre la pauvreté. Je pense qu'il faut s'inscrire dans une véritable promotion de la création de la richesse. Il n'y a qu'en créant la richesse qu'on peut la redistribuer. En luttant contre la pauvreté, on fait exactement le schéma de ceux qui veulent nous garder dans la pauvreté.
Merci.
La pauvreté n'est pas fatale.
Il y a une question qui vient de nous parvenir. Elle vient de Bukavu, de la part de M. Tamboué, qui vous pose à vous, mettre en bouillou, cette question. Comment voulez-vous que les Congolais investissent dans leur pays pendant que le pouvoir a saisi ou détruit par le passé des biens de ceux qui avaient des biens de certains investisseurs ou de ceux qui avaient créé des richesses? Il donne l'exemple de l'hôtel au Capi.
Oui, je pense que son inquiétude devrait être sur la zaïranisation.
le premier acte de destruction de l'économie a été la zaïrialisation, parce que on a pris des biens des privés, on les a nationalisés, on les a remis aux nationaux qui, par après, n'ont pas compris ce qu'il fallait faire, et on a englouti, on en est sorti avec une dette de plusieurs millions de dollars que le gouvernement, finalement, a dû payer. On a dû payer pour les familles Lito, qui devaient à l'État plus de 50 millions de dollars. On a dû payer pour les familles X, Y, Z. Le gouvernement a dû payer face à l'étranger. Voilà les vrais problèmes. Tandis que, bon, le passage, disons, un peu de l'hôpital Capi qui était abandonné, où d'ailleurs le gouvernement a mis plus d'un million de dollars sans jamais pouvoir le redresser. Bon, ça c'est un détail en passant, mais je soutiens l'idée qu'il ne faut pas qu'on revienne à des systèmes de nationalisation parce que ça inquiète les privés. L'État devrait créer lui-même ses propres activités s'il veut aller de l'avant. Oui.
Merci beaucoup. Monsieur Franck Diongo, l'entreprise Rakine espère que ses travaux, a dit que ses travaux allaient prendre fin d'ici 2 ans, c'est-à-dire le 30 juin 2010. Est-ce que vous pensez, vous, en tant qu'ingénieur, est-ce que vous pensez que c'est possible de construire tous ces immeubles en 2 ans?
Bon, ça dépend du planning d'exécution des travaux. Et que si, dans les plannings d'exécution des travaux, ils ont déjà détaillé mois par mois, jour pour jour, ils peuvent exécuter, mais là, il faut qu'on voie l'échivement technique pour essayer de voir. Il faut une étude sérieuse pour voir si la date sera exécutée, sera respectée. Mais le vrai problème de fond qu'il faut poser ici, c'est que on va construire tous ces hôtels avec les matériaux de construction importés. Donc, c'est encore un manque à gagner pour la République.
Merci, merci beaucoup.
Nous ne produisons pas.
Merci beaucoup, mais il n'y a pas aussi assez d'entreprises de construction congolaises. C'est l'entreprise Rakine qui va elle-même construire ces.
Oui, mais là, et là, vous avez suivi le ministre des Travaux Publics qui n'a pas dit combien de Congolais vont travailler pour la construction de ces complexes.
D'après les chiffres que nous avons, c'est autour de 4 000, 4 500.
Mais ça n'a pas été avancé.
Oui, Maître Mbouyou, rapidement,
oui,
s'il vous plaît.
Oui, l'inquiétude de mon cher ami Franck est tout à fait, combattue par la réalité. Par exemple, la question du ciment. Effectivement, le ciment est un problème, mais la société Rakine a offert 50 millions de dollars pour reprendre la Chinade. Un exemple, parce qu'on est déjà au-delà, et je crois qu'il y a tout un processus qui a commencé pour que l'État cède les 92% qu'il a dans cette société, ou peut-être un peu moins que ça. D'autre part, le fer à béton. Le fer à béton, le gouvernement Soumoumoutou avait pris la décision de faciliter, de créer Sociedaire pour qu'on puisse faire à béton pour le consommer sur place, mais la réalité a montré que des grands projets de cette époque-là n'avaient pas utilisé ces facilités, n'avaient pas acheté ces fer à béton, ce qui a conduit à ce que la Sociedaire est restée un éléphant blanc jusqu'à ce jour. Donc il faut quand même qu'on repense bien les projets si on veut qu'il y ait une symbiose entre les investissements étrangers et la disponibilisation de matériel au niveau local. Mais moi, je soutiens l'idée qu'en attendant que nous puissions normaliser tout cela, il faut permettre à ceux qui peuvent commencer, qu'ils commencent.
Merci beaucoup, Maître Mbouyou. Un demi-milliard de dollars américains investis par la société Rakine d'Émirats Arabes Unis pour la construction d'un complexe hôtelier résidentiel à Kinshasa. Est-ce un signe de l'amélioration du climat des affaires en RDC? C'est la deuxième partie de cette émission. Mais si vous voulez réagir, voici la procédure.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Cela fait 2 ans que la société Rakine suit le développement et politique économique de la RDC. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui à Kinshasa le directeur général de cette entreprise, suivant KTR Massad au micro de notre confrère René Capita qui était sur place.
Cela fait 2 ans que nous suivons de très près le développement politique et économique de la République démocratique du Congo et nous avons donc acquis une solide compréhension des forces et du potentiel de votre pays. Nous en comprenons aussi les manques qui sont autant d'opportunités pour notre groupe, le logement résidentiel constituant un des principaux problèmes ici à Kinshasa. Outre le secteur immobilier, Nous avons avec le gouvernement des négociations très avancées dans d'autres domaines stratégiques du pays, toujours avec l'objectif de participer à la réussite des chantiers définis par le chef de l'État. Nous sommes convaincus que nous représentons un investisseur à haute valeur stratégique pour le pays et notre objectif affiché est que la République démocratique du Congo bénéficie d'une très forte valeur ajoutée par le biais des partenariats avec notre pays. Tous ces efforts mis en commun pour établir les points forts du Congo ne pourront qu'aboutir à la croissance durable et à la prospérité de la République démocratique du Congo.
Alki Tengue, je me tourne vers vous. Vous êtes analyste économique. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, certains investisseurs, n'hésitent pas à investir, excusez-moi de me répéter, de tels montants en République démocratique du Congo, un demi-milliard de dollars, est-ce parce que le climat des affaires redevient serein dans ce pays?
Non, ce n'est pas ça qui justifierait que des investisseurs viennent chez nous. Nous sommes une destination d'avenir. Nous sommes une destination qui montre de la rentabilité à moyen terme. Ça veut dire qu'en fait, les gens se rendent compte que avec les activités parallèles qui sont en train de se passer au Congo, il va y avoir création de richesses et donc disponibilité de fonds à dépenser. Ils viennent donc installer des pompes aspirantes pour leurs propres affaires. Et ils ont raison de le faire. C'est dans les effets d'entraînement que le Congo va devoir en tirer les bénéfices. Et je pense que les gens viennent chez nous et que nous leur démontrions qu'ils avaient raison de venir chez nous, qu'ils investissent librement et qu'ils gagnent de l'argent chez nous, pourra ne serait-ce que jouer un rôle extrêmement positif par rapport aux autres investisseurs. Et encore une fois, laissez-moi vous dire que le monde entier, les grands pays qui ont évolué, ils évoluent avec l'argent d'autrui. Les États-Unis, aujourd'hui, fonctionnent avec l'argent chinois. Donc, ce n'est que normal que nous puissions pousser les investisseurs directs étrangers à venir chez nous. Et je pense que si le climat des affaires s'améliore, nous allons certainement nous améliorer également dans le classement. Mais le plus important, c'est que la politique nous assure un climat assaini pour que nous ne puissions pas démentir ces gens qui ont cru en nous. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement important. Et je pense que le personnel politique et le personnel d'affaires dans notre pays devraient pouvoir tenir compte de cette réalité et être en mesure de travailler de sorte à soigner l'image de marque. Et là-dessus, j'en appelle à une communication positive et proactive de notre gouvernement quant à l'image de marque et quant à l'image que notre pays envoie à l'extérieur. Il ne faut pas laisser les gens commenter sur notre pays. Il ne faut pas laisser les gens donner leur version sur notre pays. Nous devons donner notre première version et si les autres veulent, qu'ils réagissent. Prendre la situation de réactive est extrêmement négatif en général, ça nous a fait perdre du temps.
Oui, Franck Diongo, vous êtes député honoraire, élu de Kinshasa, un membre de l'opposition, spécialiste aussi en construction. Qu'est-ce qui justifie, disons, que certains investisseurs viennent en République démocratique du Congo? Est-ce le climat des affaires qui s'améliore dans ce pays?
Non, il n'y a pas le climat d'affaires qui s'améliore, c'est beaucoup plutôt la caution politique de la majorité au pouvoir et les relations d'amitié. En fait, parce que le vrai problème pour
Bourg... C'est mauvais s'ils emploient leurs relations d'amitié pour attirer des investisseurs.
Merci beaucoup. Laissez-moi vous dire que, au-delà de la caution politique ou d'amitié, notez que pour un investisseur, la plus grande garantie, c'est la justice. L'État congolais reste un État faible, corrompu, où il y a de l'insécurité. Aucune réforme en matière de justice, monsieur, jusque-là. Donc, dès lors qu'il n'y a pas de garantie sur le plan de la justice, l'investisseur n'est pas sécurisé. C'est alors que...
Mais pourquoi alors de tels investissements d'un demi milliard de dollars si toutes ces conditions ne sont pas réunies?
Mais parce que la justice au Congo est politisée, lorsqu'on est garanti politique, on a une garantie que sur le plan judiciaire, on sera protégé. Vous avez vu hier, il n'y a pas 3-4 jours, des députés séquestrés par des étrangers protégés par le pouvoir. Donc là, je ne pense pas que des investisseurs sérieux qui viennent sans protection politique peuvent s'avarder d'investir plus de 500 millions de dollars. Notez que le Congo, pas seulement que la majorité au pouvoir n'a pas fait des réformes sur la justice jusqu'à aujourd'hui, et d'ailleurs Maître Mbouyo, qui est l'ennemi d'un juriste de notre pays, sait que toutes les lois relatives à la réforme de la justice, même jusqu'à la traîne, notamment la loi qui organise... Et la Cour de cassation et toutes les cours au niveau de l'éclatement de la Cour suprême. Et alors, notez une chose que sous le plan sécuritaire, à l'Est, le nord de la guerre, aujourd'hui, l'Est reste un endroit insécurisé, je ne parle pas insécurisé pour le pays. Le FDLR, il n'y a pas de solution. L'accord qui a été signé à Goma jusqu'aujourd'hui, il se pose autant de problèmes. Donc ici, le Congo reste un pays corrompu, un État corrompu, vous n'avez pas vu des mesures depuis que la majorité pauvre est au pouvoir contre la corruption. Donc, tous ces facteurs de complications démontrent l'insuffisance que sur la liste du thé, on ne voit pas que l'État a de la bonne gouvernance et que sur base de cette gouvernance, a garanti l'investisseur de venir dans notre pays.
Maître Jean Bouillou, je rappelle que vous êtes député national PPRD du parti du président Joseph Kabila et membre également du bureau politique de ce parti. Est-ce que, comme vient de le dire Franck Diongo, les investisseurs privés viennent parce qu'ils ont des parapluies politiques?
Non, là c'est trop dire. D'abord, les garanties d'ordre politique sont là. Parce que les élections ont été organisées pour mettre en place de nouvelles institutions sous le regard de la communauté internationale et l'honorable Franck Diongo doit bien être d'accord que c'est à ce titre-là qu'il a aussi, pendant deux sessions, assisté au Parlement, même si la Cour suprême l'a invalidé. Ensuite, les garanties de justice. Les garanties de justice sont aussi en cours parce que dans le pouvoir constitutionnel, vous avez le pouvoir. Le président de la République, le gouvernement, le pouvoir législatif réparti entre le Sénat et l'Assemblée nationale, et le pouvoir judiciaire. Toutes les autres institutions ont été mises en place, ce qui déjà procure une garantie. On est en cours de finalisation des textes sur le pouvoir judiciaire. Et ce processus-là, on ne peut pas l'ignorer, donc il est en train de se faire, la réforme est en train de se faire, malgré ses insuffisances, mais enfin, la réforme, il a donné en année, petit à petit. En ce qui concerne l'insécurité, l'insécurité n'est pas nécessairement une cause de non-investissement. Prenez les États, prenez un État connu pour son insécurité, comme le Liban. Le Liban, l'Irak, merci Al-Kitenge, et bien, ce sont des pays, malgré l'insécurité chronique qui y est, mais chaque jour, les investisseurs arrivent. Donc, c'est un élément, c'est simplement un élément.
Rapidement, s'il vous plaît.
Oui, parler d'un État aussi corrompu, je me demande comment, avec un tel langage, on peut inviter les investisseurs. Parce que si on dit, on va crier au monde en disant, oui, nous sommes un État corrompu, alors comment est-ce qu'ils viendront? Mais c'est aussi un processus qui est en cours et le chef de l'État, Joseph Kabila, est engagé de combattre la corruption. Et je crois que les institutions devraient suivre ce mot d'ordre et s'aligner sur cette action très très profonde du chef de l'État.
Al-Kitenge, est-ce que vous pensez qu'il y a aujourd'hui assez de garanties sur le plan juridique pour que des investisseurs étrangers déversent leur argent en République démocratique du Congo sans risque pour leurs capitaux?
Nous sommes une jeune république en termes de démocratie, en termes d'institutions, et je pense que nous devons être cléments vis-à-vis de nous-mêmes. Mais je crois que le plus important, et tous les intellectuels congolais devraient s'y mettre, c'est d'essayer de convertir le cercle vicieux en cercle vertueux. Vous savez, le vrai pouvoir dans le monde, il est économique. Il est donc important que nous devenions une grande destination économique, que nous devenions une puissance économique. Et ces besoins économiques, ces besoins de bonne gouvernance vont devoir avoir du poids et de l'influence sur le politique. Et les deux allant ensemble, nous pouvons faire un État moderne capable de faire face aux besoins de nos jeunes populations, aux besoins de nos enfants et de nos petits-enfants. Et je pense qu'il ne faut pas faire de l'autoflagellation. Il est important qu'aujourd'hui on se rende compte que nous sommes dans un tournant très puissant qui va garantir l'avenir de notre pays et il faut éviter de faire de la politique politicienne. Lorsque quelque chose est bien fait, il faut vraiment le féliciter, il faut l'encourager et lorsque beaucoup d'autres choses doivent être faites, il faut le faire venir. Ce que j'ai envie de dire, c'est qu'aujourd'hui, on a tendance à tomber en émoi par rapport à 500 millions de dollars qui vont être investis dans un hôtel, on a bien raison, mais on a quand même des investissements beaucoup plus grands que ça dans le secteur minier, aussi bien au Katanga que dans les provinces comme la province orientale qui sont les provinces qui ont un capital, un potentiel économique assez important. Je pense que nous devons arrêter de nous émouvoir par rapport aux chiffres. Rien que pour vous donner une petite illustration, l'Angola a un budget de 33 milliards de dollars. Donc, quand on investit chez nous 500 millions de dollars, nous ne devrons pas en faire une grande affaire. Il faudrait qu'on ait encore de plus grands investissements. Nous avons un territoire de 2 345 000 km², nous avons 60 millions de personnes. Et toutes ces personnes attendent, et c'est pour ça que je pense qu'il faut en appeler encore davantage à l'activité économique, afin que demain soit bien meilleur qu'aujourd'hui.
Merci beaucoup, Al-Kitenge. Bonsoir, Guy Maté.
Bonsoir, Claude Cadin.
La parole à vous pour les réactions des auditeurs sélectionnés ce soir pour nous.
Jean-Pierre Kamwabo de Kananga au Kasaï occidental dit qu'il soutient ce projet car ce dernier, avec les routes que construisent les Chinois, feront de Kinshasa une ville moderne. Que les seigneurs soutiennent ce projet. André Boto au Kasaï occidental pense que ce que le gouvernement compte faire en construisant un hôtel de 5 étoiles est louable car c'est une initiative d'intérêt public. Un auditeur qui n'a pas donné son nom dit ceci, coup de chapeau à la politique étrangère de la RDC, mais que ce partenariat ne se limite pas seulement à Kinshasa. Bruno de Congolo au Katanga encourage cet acte, mais demande si le paiement régulier des fonctionnaires ne vaut-il pas mieux que ça. Papinzaou de Dinza à Kinshasa affirme que faire des hôtels, c'est bien, mais ce n'est pas la priorité. Il poursuit en disant, nous aimerions que l'État solutionne d'abord les problèmes d'énergie, d'eau, de santé, de l'éducation et des routes.
Merci beaucoup, Dimaté. Franck Diongo, qu'est-ce que vous pensez de la réaction de Jean-Pierre Kamwabo de Kananga Kasaï occidental qui soutient ce projet, car ce dernier avec les routes que construisent les Chinois feront de Kinshasa une ville moderne.
Bon, moi je pense que c'est un problème de sous-information. À Kinshasa, les Chinois ne feront qu'une autoroute de 25 km. Une route de 25 km, monsieur. Donc ici, le vrai problème que nous avons, les vraies priorités à Kinshasa, ce n'est pas de construire une autoroute, ce n'est pas de construire un hôtel. Nous avons aussi 528 km de la ville de Kinshasa. Vous avez à peine 20 à 30% de routes qui sont praticables. Et les communes ne sont pas interconnectionnées. Donc il se pose un problème d'interconnexion des communes. Donc, lorsque Al-Kitenge a parlé également des investissements, notez que la République démocratique du Congo, déjà nous avons 33% des terres sont vendues sous forme de concessions minières. Donc, le Congo ne reste qu'avec 67% des terres. Et là, sur les 34% des terres agricoles, nous ne savons pas. Sur les 33% des terres vendues, nous restons avec combien de terres agricoles.
Donc, loué à investissement, c'est loué à des particuliers ou vendu.
C'est vendu, monsieur. C'est vendu. Maître Mbouyela, il va vous confirmer. Donc, les 33% vendus sous forme de concessions minières. Donc, il se pose un problème. Le Congo va tout donner jusqu'à oublier les droits à la vie des Congolais. Voilà pourquoi nous pensons qu'il faut d'abord tenir compte, bien entendu, des intérêts du Congo, des intérêts des Congolais, pour essayer de préparer la survie de notre pays.
Et le projet à Kinshasa ne défend pas les intérêts du Congolais.
En fait, nous n'avons pas dit que c'est mal d'avoir un hôtel, mais c'est un mauvais choix des priorités. Dans la planification des urgences, dans la planification des priorités, il ne faut pas commencer par un hôtel lorsqu'on n'a pas des routes, on n'a pas à manger, on ne sait pas se soigner.
Merci beaucoup, Franck Diongo.
On n'a pas d'école.
Merci beaucoup.
On n'a pas de transport.
Merci, Franck Diongo. Maître Jean Bouillou, il y a Papi Nzaou de Binz à Kinshasa qui affirme que construire des hôtels, c'est bien, mais ce n'est pas la priorité. Il poursuit en disant, nous aimerions que l'État congolais trouve d'abord des solutions aux problèmes d'énergie, d'eau, de santé, de l'éducation et des routes.
Oui, écoutez, papy, c'est un peu d'amalgame. Ici, c'est une initiative privée, il ne s'agit pas d'argent de l'État. Les privés s'installent et l'État taxe sur ce qu'il gagne. Donc, créer un hôtel de grande classe où les riches vont venir habiter permet à l'État de gagner de l'argent parce que dans ce qu'il paye chez l'hôtelier, chez le propriétaire, l'État prélève un impôt. Et c'est cet impôt-là qui va financer le paiement des salaires des enseignants. Donc ça, il doit comprendre ça, je crois qu'il aura le temps de le comprendre. Mais je voudrais tout de suite corriger certaines erreurs de mon collègue Franck. D'abord, dire que des terres concédées aux sociétés minières sont vendues, c'est inexact. Une concession, nous avons depuis la loi Bakajika en 1966 affirmé le principe que le sol et le sous-sol appartiennent à l'État, et ce principe est dans la Constitution. Les concessions sont données pour une certaine durée, notamment 25 ans, ou peut-être on va prolonger demain à 50 ou à 99 comme autrefois. Mais ce sont des concessions, ils les exploitent, et ils doivent renouveler à tous les 25 ans leurs droits sur ce sol-là, et les sols restent à l'État. Donc il ne faut donc pas dire que les 33% des concessions minières accordées c'est une vente de la terre. Non, c'est revenu. Ensuite, à Kinshasa, les Chinois, d'abord dans la République, en ce qui concerne les routes, ils vont construire 450 km de routes pour le programme 2008-2009. Et sur les 450, 245 km de routes seront construites à Kinshasa. Les 25 km dont parle l'honorable, c'est sans doute la ville aéroport, la route aéroport centre-ville, mais je peux vous dire qu'il y aura 246 km de route qui seront construites. Donc je crois qu'il ne faut pas faire d'amalgame à un moment donné.
Merci. C'est avec vous, Alki Tenglik, qu'on va terminer cette émission. Il y a un auditeur anonyme qui dit qu'il faut que ce partenariat ne se limite pas seulement qu'à la ville de Kinshasa.
Ce serait très bien et je souhaiterais beaucoup que la société irakienne SRL l'entende. Mais là-dessus, je dis que nous n'avons pas à attendre seulement de la société irakienne. Il faudrait que la NAPI travaille énormément et joue du charme, fasse du lobbying pour que les destinations congolaises soient des destinations privilégiées. Le Maroc se bat pour que les gens aillent investir au Maroc. L'Angola a un spot publicitaire sur CNN, c'est le seul pays africain qui a un spot publicitaire sur CNN, pour appeler les investisseurs à venir chez nous. Et là-dessus, je souhaite que le gouvernement se mette debout avec tous les outils nécessaires pour être en mesure de travailler sur l'image de marque de la République démocratique du Congo et attirer le maximum d'investisseurs.
Mais
nous avons des potentiels au Congo.
Mais sans sécurité à l'Est, est-ce que les investisseurs peuvent être attirés à investir là-bas?
La question c'est, est-ce que si nous commençons des grandes activités économiques, ça ne va pas être un frein à l'insécurité? Ma réponse est oui. Je pense simplement que l'une des raisons qui fait qu'il y a autant d'insécurité dans la partie Est de notre pays, c'est simplement parce qu'il n'y a pas d'activité. S'il y avait des grandes mines, s'il y avait des grandes sociétés, il y en aurait beaucoup moins.
Merci beaucoup. C'est la fin de cette émission. Merci à vous, nos invités. Guy Roger a préparé cette émission, Kéline Couté l'a réalisée. Guy Mathieu a recueilli les réactions des auditeurs et Sylvain Baugouerité à la mise en onde ce soir. Au revoir et bonne soirée sur Radio Capi. À demain.